matin, Culture Média.
9h, 11h,
Thomas Hill.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez à l'instant, ne soyez pas surpris. Non, je ne suis pas Philippe Vandel, mais sa doublure Covid. Hein. Philippe reviendra dès qu'il n'aura plus qu'une seule barre. À suivre, notre invité, l'écrivain Charles Danzig, pour son essai Proust Océan. Même si vous n'avez jamais eu le courage d'ouvrir à la recherche du temps perdu, eh bien, ça devrait vous intéresser, vous verrez. Et puis, les forces vives de Culture Média sont autour de moi. Bonjour Héloïse Gouin.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Salut Stéphanie Loire également.
Bonjour Thomas.
Et enfin, bonjour Jean-Luc Lemoine.
Et bonjour Thomas.
Alors Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme. Pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez eu envie de nous parler d'amour.
Oui Thomas, mais je suis très embêté car j'avais écrit toute ma chronique en pensant que j'aurais Philippe Vandel en face de moi.
Je suis désolé. Ouais,
donc ça ne vous embêterait pas de faire semblant et de mettre une veste avec un vieux t-shirt. Et puis si vous pouviez baisser votre siège.
Ah oui, ouais, je fais ça.
Juste pour que j'ai quelques repères visuels.
Voilà.
Non mais c'est mieux, je vous assure, c'est intimidant. J'ai l'impression d'être dans un speed dating de l'amour et dans le pré et que je dois charmer un bel agriculteur à lunettes. Et là, vous vous dites, mais quel talent pour les transitions.
Il est fort.
Ah là.
Il est fort.
Car oui, je voulais revenir sur l'émission de M6, car de la vie générale, c'était un grand numéro lundi. Et c'est vrai que j'ai appris des choses.
Ah.
Notamment quand tu vas faire du karaoké comme Nathalie et que le lendemain, t'as plus de voix.
C'est ma faute aussi. Tu chantes pas du Johnny à la deuxième chanson. Tu chantes du Johnny car ta voix, tu sens qu'elle est bien chaude. Là, la deuxième chanson, j'ai chanté Diego.
Bah non, erreur de débutant. Diego, c'est trop haut. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Thomas Hill.
Oui, pardon.
Ah d'accord.
Pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, j'ai demandé à la régie de remplacer tous les flics Vandel de mon texte par des...
Thomas Hill.
Ah voilà. C'est bien, c'est très bien.
Voilà. Donc c'est trop haut, Johnny. De toute façon, ils ont un problème avec l'idole dans cette émission. Là, une candidate motarde était en speed dating avec un prétendant.
Tu es motard, ouais. Je ne me rappelle plus.
Motard, non. Alors je ne le suis pas parce que je n'aime pas la moto aussi. J'adore les Harley puisque je suis un grand fan de Johnny Hallyday.
Voilà, par capillarité, si tu es fan de Johnny, tu aimes les motos.
Bien sûr.
Ça me paraît logique. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que si tu es fan de Johnny, t'as de grandes chances de finir célibataire dans l'amour et dans le pré. Vous n'êtes pas d'accord?
Thomas Hill.
Si, tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord.
Ouais, je sais, c'est lourd.
C'est lourd.
Hein. Donc, dans ce numéro, on a pu voir la suite des aventures amoureuses avec des prétendantes qui viennent dans les fermes.
Ouais.
Et il y en a une. Vu ce qu'elle nous a raconté sur ses hobbies, perso, je l'aurais pas invité chez moi.
Ma grosse passion, c'est le ball trap et mes animaux. Donc j'ai commencé à faire du ball trap suite à une rupture difficile.
Ah ouais, c'est venge, ouais.
La fille t'explique tranquille qu'après une peine de cœur, elle s'est mise au ball trap. Ça peut finir en fait divers, cette histoire.
Clairement.
Ensuite, on a été en Corrèze pour voir Guillaume, un éleveur. Et là, j'ai eu une grosse frayeur. J'étais parti dans ma cuisine et de loin, j'ai entendu ça.
Il faut pas que je me trompe de sens parce qu'il y a un trou normalement dedans. Mais j'y suis pas dans le trou là. Ah, il est là.
Oui, moi aussi. J'ai eu peur, mais en fait, il essayait juste d'enfiler une couette dans une housse.
Ouais, à la radio, c'est pas pareil.
Mais... Non, mais on sait se tenir à Europe 1 quand même.
Sûr.
Et donc, on a retrouvé Jean et ses deux prétendantes, Nathalie, alias Chouchou, et Laurence. Et Jean avait sorti le grand jeu pour les impressionner.
Une vingtaine de convives ont été invités par Jean à une merguez partie en l'honneur de ses prétendantes.
C'est la merguez.
Ça, normalement, c'est imparable. Dans toutes les comédies romantiques, il y a une merguez partie. C'est la base.
Bien sûr.
Quatre merguez et un enterrement, ça vous dit rien? Le problème, c'est la suite.
Il va falloir s'organiser. Mmh. Mmh. Comment tu vas faire? Tu t'occupes du barbecue, on s'occupe du reste.
Non, le bip, c'était sur le mot barbecue qu'il fallait le mettre. Mais merci la technique. Hein. Si Sandrine Rousseau écoute la rubrique, on va avoir des emmerdes. Donc, dans cette réunion où un homme a voulu affirmer sa virilité en faisant griller des saucisses épicées, sa prétendante Nathalie nous en a dit un peu plus sur elle.
Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Avant, j'étais agent d'entretien. Je travaillais à la piscine à chatte.
Quoi?
La piscine à chatte? Non, calmez-vous.
Thomas Hill.
Calmez-vous, Thomas Hill, parce que ce n'est pas une piscine naturiste réservée aux femmes. Chatte, c'est une commune de l'Isère.
Ah oui, bien sûr, oui.
Oui, il y a des gens qui habitent dans chatte. Après, Jean et ses deux prétendantes ont été dans une guinguette. Et là, ça a été le drame. Jean et Laurence dansaient un slow quand le DJ a eu la mauvaise idée de dire ça.
Vous pouvez embrasser votre cavalière. Hein. C'est autorisé par le patron.
Ouais, je vous ai rajouté un bruitage pour que vous compreniez, parce que l'image était incroyable. Jean, avec sa langue, a fait à Laurence ce qu'on appelle en langage de dentiste une panoramique.
Ah.
Il a contrôlé toutes les dents. Et pendant ce temps-là, la pauvre Nathalie assistait au carnage, avec ce commentaire, un brin teinté d'amertume.
Tu crois que je regarde pas, en fait? Tu crois que je regarde pas? Elle est gibule, là. Elle a gagné. Elle est gibule.
Gibule.
Oui, elle gibule.
Elle gibule.
Mais gibulera bien qui gibulera la dernière. En tout cas, pour moi, c'était une gibulation de faire cette chronique avec vous.
Thomas Hill.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. À demain. Et Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris. C'est les vendredis et samedis, c'est ça?
À partir du 8. Et je serai le 7 aussi à Salit de Berne.
Eh bien, on ira vous voir avec plaisir. Héloïse Goua, quel est le programme de votre indispensable aujourd'hui?
Un peu de boxe aujourd'hui avec une série biopic autour de Mike Tyson. Je ne sais pas si vous connaissez bien sa vie.
Si, bien sûr, c'est mon sosie.
C'est ça. Mais en tout cas, ça vaut largement 8 épisodes.
Très bien. Et Stéphanie Loire, qu'est-ce qu'on va écouter ce matin?
Je vous présente l'intégrale de la plus française des chanteuses anglaises, Jane Birkin, dont je suis convaincue que vous savez parfaitement imiter l'accent, Thomas.
Bien sûr. Ex-fan de 60s.
Ça vous va? Bravo.
Belle match. Parfait.
Allez, dans Belle match, t'as raison. Et dans un instant, on parlera aussi littérature. On sera avec Charles Danzig pour nous parler de son dernier livre, Proust Océan. Mais d'abord, musique avec l'ancienne du groupe Thérapie Taxi, la chanteuse Adé.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Et nous avons le bonheur de recevoir ce matin l'écrivain plus que l'éditeur Charles Danzig. Vous venez nous présenter Proust Océan, un essai très personnel sur l'auteur de La Recherche du Temps Perdu qui vous passionne depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pas la première fois que vous écrivez sur lui. Et pourtant, vous expliquez qu'au début, vous avez trouvé son œuvre opaque.
Et oui, la première fois que je l'ai lu, je crois que je dois être un peu comme tout le monde, vous savez, c'est une œuvre tellement singulière que la première fois que je l'ai lu en entier. Je comprenais bien qu'on me racontait des histoires d'un petit garçon qui avait du mal à s'endormir et qui rencontrait des femmes formidables, mais je ne voyais pas bien à quoi ça servait. Mmh. C'était très, très opaque, je ne peux pas dire mieux, et ça me paraissait une narration un peu bizarre, et c'est la deuxième fois que je l'ai lu.
Mais du coup, vous comprenez aussi que cette œuvre, cet auteur puisse intimider certains lecteurs. On a parfois l'impression que s'attaquer à Proust, c'est grimper l'Everest.
Je comprends ça. Et en fait, je crois que ça tient beaucoup à son nom. Je crois que Proust, c'est devenu comme Chanel, Hermès, comme ça, une marque. Ouais. Ça intimide les gens. Et moi, je serais assez d'idée de recommander aux éditeurs de Proust de le publier sous le nom de Dupont. Et on aurait Marcel Dupont à La Recherche du Temps Perdu. On serait, je vous assure,
ça
on serait beaucoup moins...
Vous croyez?
Bah, pourquoi pas? Je pense que ça serait beaucoup moins intimidant parce que vraiment, le nom, c'est
après,
comme...
C'est sa longueur aussi qui peut être intimidante en partie. Hein. La Recherche, c'est quand même 7 volumes, mais après tout, Harry Potter aussi. Donc bon. Mais c'est surtout un style qui est très érudit, qui peut sembler complexe par moments.
Alors, si je peux vous contredire, je ne dirais pas qu'il est érudit, parce qu'il y a des écrivains qui sont effectivement érudits, je pourrais citer James Joyce, etc., qui font des tas de références, ou qu'il faut vraiment lire avec des notes en bas de page pour deviner ce à quoi ils font allusion. Proust est un écrivain très simple. Il n'y a aucun mot compliqué. Pas dans Proust, on n'est pas obligé d'aller chercher un dictionnaire pour savoir ce que les mots veulent dire. On n'est pas obligé d'avoir des références. En réalité, la seule chose qui peut paraître compliquée dans Proust, c'est son rythme. Parce qu'il a un rythme lent. Ses phrases sont assez célèbrement longue, mais pas toujours longue d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant. Et donc en fait, moi je pense que lire Proust, c'est exactement comme faire de la plongée sous-marine. Il faut adapter sa respiration. Mais une fois qu'on a adapté son rythme de lecture au rythme de Proust, je pense qu'il n'y a pas de complications intellectuelles dans Proust.
Et vous nous autorisez à le lire dans le désordre ou pas? Ou vous faites partie des gens qui disent il faut...
Ah non, non, moi je l'ai lu dans tous les ordres. Je l'ai lu même pour écrire ce livre, je l'ai relu à l'envers.
Ouais.
Et non, non, c'est même, on peut commencer par n'importe quel volume. Il y a une succession d'histoires. On peut le lire les uns à la suite des autres, mais on peut prendre n'importe quel volume séparément.
Et votre livre, il s'intitule Proust Océan parce que justement, c'est parce que c'est immense qu'on peut s'y noyer aussi parfois.
On peut s'y noyer, mais je comprends tout à fait que des gens aient horreur de ça. Moi, j'ai par exemple horreur de Louis Ferdinand Céline, donc je comprends tout à fait qu'on puisse avoir horreur de Proust. Mais oui, Océan, c'est à cause de ce style océanique, de l'ampleur, et aussi des... Je crois qu'il est océanique par l'ampleur des nouveaux sujets qu'il a apportés à la fiction. Parce qu'il s'est intéressé à des choses auxquelles personne ne s'intéressait avant lui. Par exemple, quelque chose qu'on ne voit plus maintenant qu'il a gagné, et que c'est très connu et que c'est admis dans la société. Proust est le premier à avoir parlé de la tendresse chez les hommes, je veux dire les êtres de sexe masculin. Mmh. Personne ne parlait de tendresse chez les hommes avant, pour telle et telle raison, je ne sais pas pourquoi, mais il a apporté ça et tout d'un coup c'est devenu tout naturel et on s'est mis à considérer ça. C'est pas rien parce que ça veut dire aussi que c'est un rapport, en ce moment on parle tellement de ça, un rapport à la masculinité.
C'est l'un des premiers d'ailleurs à parler d'homosexualité.
C'est un des premiers, il y a eu avant quelques écrivains qui en parlaient, mais toujours de manière négative et très très sporadique. Et Proust est le premier effectivement à avoir parlé de ça, des lesbiennes, des homosexuels, sexuelle, comme si c'était un sujet qui n'était pas monstrueux.
Et alors, vous vous permettez de dégommer quelques idées reçues. Par exemple, vous faites la différence très nette entre Proust et le narrateur de la recherche, alors que j'étais persuadé, comme beaucoup, je pense, qu'il ne faisait qu'une seule et même personne. Proust, c'est deux personnes très différentes.
Moi, je pense que c'est deux personnes très différentes. Et c'est d'ailleurs ça qui doit, je pense, permettre de le lire plus facilement. À partir du moment où on croit que le narrateur est Proust, on doit aborder ce livre en se disant « Mon Dieu, je dois savoir des choses sur la vie de Proust, sur Proust, pour mieux comprendre. » Or, si on le lit comme n'importe quel roman, ce qu'il est après tout, avec un narrateur qui est un jeu, mais ce jeu n'est pas celui de Proust, ça se simplifie considérablement. Et je vais vous dire les raisons très très simples pour lesquelles le jeu qui écrit le roman c'est-à-dire le narrateur, n'est pas Proust. C'est que la première raison, qui est quand même essentielle, c'est qu'il est hétérosexuel.
Ouais.
Et comme nous savons, Proust était gay.
Il n'est pas juif.
D'autre part, même sur des petits détails de Trois fois rien, le narrateur monte à cheval. Proust n'a jamais monté un cheval de sa vie. Il n'aimait pas les animaux. Enfin, il y a plein de détails.
Et d'ailleurs, il n'est pas encore écrivain.
Exactement.
Aussi dans le livre.
Il n'est pas encore écrivain.
Alors que Proust, l'était définitivement.
Et on parlait des sujets tout à l'heure. D'ailleurs, c'est une chose maintenant. On voit ça dans Guillaume Musso. Proust est le premier à avoir inventé le personnage d'écrivain.
Ouais.
On a mis 100 ans à répandre cette idée parce que ça paraissait un peu intimidant, ça va intéresser qui ? Et en fait, moi, je crois que tous les lecteurs rêvent secrètement de devenir écrivain.
Bon, là, le niveau de la conversation est quand même assez soutenu. Donc, Charles Dantzig, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit break, on prend un expresso et on se retrouve pour parler musique avec Stéphanie Loire. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Thomas Hill.
Charles Dantzig est avec nous ce matin à l'occasion de la sortie de son essai Proust Océan, mais il est 10h23, ça me semble vraiment le moment idéal pour s'offrir un premier indispensable. Et on va parler musique avec la reine du karaoké, Stéphanie Loire. Vous nous présentez ce matin.
Mais enfin, qui vous a donné cette info ?
Moi, je sais tout. Vous allez nous présenter l'intégrale de la plus française des chanteuses et comédiennes anglaises, Jane Birkin.
Exactement. Bonjour Charles Dantzig. Je vous parle d'un sublime coffret en édition limitée, bien joufflu, qui pèse 5 kilos, promis un bel avenir. Qui rassemble 292 titres, des archives télé, un livret illustré des originaux, des titres bonus et un CD entier de duo et rareté, parmi lequel cette pépite avec le groupe rock britannique Franz Ferdinand, écoutez A Song for Sorry Angel.
Je ne connaissais pas ça, c'est génial. C'est une reprise, hein ?
Ouais, c'est hyper beau. C'est une reprise qu'elle a fait avec Franz Ferdinand, que je vous invite à écouter en entier. De 1969 à 2002, Jane Birkin, elle a tracé sa route jusqu'à devenir cette icône de mode que l'on connaît tous, cette chanteuse, actrice, muse, mais aussi cette Lolita ingénue, mère de famille, cette artiste engagée. Jane Birkin, elle a endossé tous les rôles. Un parcours qui mérite amplement ce très bel objet qui est destiné aux fans et aux collectionneurs. Je ne sais pas si vous en faites partie. L'intégrale des titres de Jane Birkin.
Pardon, mais tout à l'heure, Charles Dantzig, pendant la pub, nous disait est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent des disques aujourd'hui, c'est vrai ?
Eh bien, ceux qui achètent des disques.
Qui plus est, des intégrales,
Les collectionneurs, justement, les fans, avoir le bel objet physiquement à la maison. Ouais. Là, celui-ci, vraiment, avec ce livret qui est très détaillé, c'est vraiment un bel objet à avoir chez soi. Puisque Jane Birkin, c'était un véritable patrimoine. Dans ce coffret, on y traverse son histoire qui est aussi devenue la nôtre au travers de ses chansons. C'est la magie de la musique, puisqu'on a tous un souvenir lié à une chanson de Birkin. Je suis sûre que vous aussi, Thomas Hill, d'ailleurs, je me suis renseignée. Il me semble que ce titre-là. Moi j'aime bien failloter avec les nouveaux, qui est aussi le titre d'un album entier écrit, composé par Serge Gainsbourg, publié en 1978, qui s'amuse avec l'image de sex symbol de Jane Birkin et puis aussi l'évocation de la nostalgie des pop stars disparues, ex-femmes et sixties. Petite baby doll, comme tu t'en sais bien le rock and roll. Ex-femmes des sixties. Où sont tes années folles? Et puis il y a un grand volet de l'œuvre de Birkin qui est dédié aux chansons d'amour, bien sûr, porté par le splendide et torride Je t'aime moi non plus, qui s'est hissé au sommet des charts en 1969. On connaît aussi bien sûr la version originale avec Bardot. Ouais. C'était en 1967. Je parlais de souvenirs. Je suis convaincue que, Charles Dandy, vous avez un souvenir sur ce titre-là, peut-être. On ne voudrait pas être trop...
J'ai plutôt un souvenir, moi.
Vous alliez dire, t'as emballé sur ce thème non plus, c'est ça? Alors, Charles.
Non, moi, c'était l'aquaboniste, comme dans Aquabon, tout était perdu.
Ah, l'aquaboniste. On va se le mettre de côté, l'aquaboniste.
C'est sur le même album, d'ailleurs, on se le met de côté, on se l'écoutera à la fin.
Allez, écoutez ça, on l'a en régie.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes.
Ça, c'est du Gainsbourg. Hein.
Qui dit toujours aquabon.
C'est de l'ultra mélancolie.
Un aquaboniste.
Au fil du temps, Jane Birkin, elle a réussi à s'émanciper de son rôle de muse. Elle a inversé les rôles. Dans ce coffret, on témoigne le live inédit de son dernier album intitulé « Oh pardon, tu dormais », dans lequel elle s'expose enfin, comme rarement en tant qu'auteur avec un E, convaincue par son ami Étienne Dao qu'elle avait la légitimité et le talent pour enregistrer ses propres textes.
« Oh pardon, tu dormais ?»
Je te sens énervé.
Parfois il me semblait que je t'aimais tellement fort que j'allais éclater en te voyant rentrer le soir. Oh pardon, oh pardon, tu dormais.
Bon, j'en profite pour lui adresser un message direct si jamais elle est auditrice d'Europe 1. Jane, je vous aime.
Oh, c'est joli. On se fait une petite balade de Melody Nelson pour terminer.
Toujours partante.
Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait des tonnes.
Ça aussi, ça fait partie de cette intégrale de Jane Birkin en coffret édition limitée. Donc 1969-2022. Ça coûte combien ce petit bébé, Stéphanie?
La modique somme de 105,99€ pour ainsi dire 106.
Tu es pas cher. Franchement, pour toute une œuvre, c'est assez raisonnable. Merci.
Ça peut servir de meuble télé aussi tellement c'est
grand. En plus, double usage, c'est formidable. Et alors, combien pour l'intégrale de Charles Danzig? Je vous laisse calculer le temps de la pub, Charles. Vous me faites un prix d'ami. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
De retour dans Culture Média avec un écrivain ce matin, Charles Danzy, qui est notre invité pour parler de l'un des essais importants de cette rentrée littéraire. Ça s'appelle Proust Océan. C'est un essai très personnel qui témoigne de votre passion, de votre amour même, on pourrait dire ça, pour l'œuvre de Marcel Proust. On peut parler d'amour à ce niveau-là, là, je crois.
On peut parler d'amour, oui. Ouais. Depuis le temps que je vis avec lui, c'est une longue histoire. Je l'ai lu depuis l'âge de 17 ans. Mais je crois qu'en même temps, c'est ma lettre de rupture aussi. J'en peux plus. Là, j'ai écrit ce livre, c'est fini.
C'est
voilà.
Terminé.
Voilà. Après, je passe à la comtesse de Ségur.
Et alors, vous revenez pour l'instant sur tous les personnages de la recherche du temps perdu et vous consacrez de longues pages au choix des noms et des prénoms des personnages. Commencez par Oriane. Vous dites ce prénom, il n'existait pas. Marcel Proust l'a inventé. Et aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui s'appellent.
Il y a des milliers de femmes qui s'appellent Oriane, et c'est très frappant parce qu'on ne sait pas du tout, même par sa correspondance, comment il a pu former le nom. Et je pense que comme elle est blonde avec des reflets roux, la première syllabe c'est or. Il a dû penser à de l'or, ouais. Mais enfin, après, je n'en sais rien. Mais le fait que ça soit un prénom qui n'existe pas, je pense qu'il a voulu ça pour créer un être fabuleux. Quand un prénom n'existe pas, s'il l'avait appelé Geneviève, c'était plus banal.
Ouais.
Donc l'idée d'un prénom qui n'existe pas, c'est déjà une grande idée.
Et alors il a popularisé aussi le prénom Swann.
Ah bah oui.
Qui serait, paraît-il, en tête l'année prochaine des prénoms les plus donnés en 2023. En tout cas, les prénoms les plus tendances, avec un seul N.
Avec un seul N. Donc si les gens rajoutent un N, ils seront vraiment proustiens.
Ouais.
Mais
c'est même devenu une chanson de variété.
C'est devenu une chanson de Dev, en effet. Ouais. Swann est... Alors Swann, on pense savoir d'où ça vient. C'est que Proust fournissait chez un pharmacien à côté de la rue de Rivoli à Paris et sous les arcades duquel le trottoir est pavé de mosaïques avec les marques et les noms des boutiques qui étaient à côté. Et on voit encore aujourd'hui un rond, un cercle avec Swann, un seul N, donc les gens ont raison, ouais. Qui était la pharmacie Swann, qui était à côté où on pense que Proust allait se fournir.
Alors vous vous intéressez aux noms, aux prénoms, et pourtant vous dites « je n'ai aucune passion des noms, pour moi ce sont de simples poignées ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que je parle plutôt des noms communs. Quand on parle à un écrivain, on lui dit « vous aimez les mots, vous adorez les mots ». Moi, les mots, ça m'est absolument égal, j'ai pas une passion des mots. Un écrivain, c'est pas quelqu'un des mots, c'est quelqu'un des phrases, je crois. Mmh. Parce que je crois que les mots sont faits pour mentir. Je présume qu'il arrive qu'Europe 1 reçoive des politiciens, je sais pas, je présume, arrive, je le sais. Et ben, on sait très bien que ces gens-là, quand ils disent vert, c'est plutôt pour ne pas dire rouge, et quand ils disent liberté, c'est pour dire police, etc., etc. Donc, les mots sont faits pour mentir. Et puis, un mot, ça n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une religion du mot. Le mot cheval n'est pas le même en français, en espagnol, en italien, enfin. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire de croire que le mot cheval ressemble, il y a une superstition du mot, et le mot pour moi vraiment n'est pas important.
Et le nom non plus n'est pas important.
Ah c'est... si, le nom est important. Ah. Le nom est important. Par exemple, si je peux me donner un exemple.
Oui,
pour
parce
exemple,
que vous-même vous avez changé de nom.
Voilà, mais même dans mes romans, le choix des prénoms et des noms des personnages ne sont pas anodins. Ils doivent avoir une raison qu'on n'est pas obligé d'expliquer, comme Proust n'a pas expliqué ses raisons.
Donc, et vous, vous n'allez pas nous expliquer pourquoi vous avez choisi Charles Dandy, par exemple ?
Non, même sous la menace de devoir lire, Annie Ernaux, je ne répondrai pas.
Quelle menace ! Vous êtes dur. Alors, il y a une chose aussi qu'on ne soupçonne pas toujours quand on ne connaît pas l'œuvre de Proust, c'est son humour, c'est
bien
sa
sûr.
Force comique.
Bien sûr.
Pas toujours de très bon goût d'ailleurs, vous dites. Hein,
non, il a des petits côtés, comment dire, Thierry Luron par moment.
Ouais.
Ça, ouais, il fait des vannes sur les femmes qui sont d'un goût parfois douteux, c'est-à-dire il aime beaucoup se moquer des vieilles femmes à moustache. Il y a un personnage de vieille femme à moustache dont il décrit dans un paragraphe d'assez mauvais goût, mais très ouais. comique, que pendant, mais qui dure, je ne sais pas, 10 lignes, ou alors la moustache, comme ça, elle bave un peu en parlant, ce qui fait luire un peu le poil de la moustache. Enfin, c'est donc pas non plus toujours l'écrivain chichiteux qu'on peut ouais. penser qu'il est
là,
quand on n'a pas
lu. Le plaisir de l'écriture.
Ah oui, ouais. oui, là vraiment, il s'amuse.
Et plus généralement, il était quand même assez décalé hein, par rapport aux auteurs de son époque. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Gallimard a d'abord refusé de publier le premier volume de la recherche.
Ben, c'est Grasset, la maison qui publie ce livre, qui a publié. Qui ouais. a publié. C'est, Gallimard a refusé aussi parce qu'il y avait une concurrence avec Gide, qui était le grand homme de chez Gallimard. Il y avait des jalousies, des choses comme ça. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, mais la littérature n'est jamais pure.
Héloïse Goa.
On parle beaucoup de Proust cette année parce qu'on fête le centenaire de sa mort. Comment est-ce que Proust regarderait notre époque d'aujourd'hui, selon vous, lui qui avait ce sens de l'observation légendaire ?
Eh bien, évidemment, c'est difficile de parler pour lui, mais je me dis qu'il avait un petit tic qu'on voit beaucoup dans son roman, c'est qu'il avait la passion de corriger les gens qui parlaient mal le français. Et donc, je crois qu'il aurait du cœur à l'ouvrage, là, avec Twitter, les réseaux sociaux, il se régalerait.
Ah, oui, oui. Et pour vous, d'ailleurs, Proust, il a bouleversé la langue française.
Ah,
hein.
Oui.
De quelle manière il l'a fait ? Il l'a étiré, vous dites.
Oui,
qu'est-ce
oui.
que ça veut dire, ça ?
Parce que, comme nous le savons, on a tous appris le français à l'école. Le français est une langue sérieuse, rigoureuse, avec des règles très strictes. Enfin, c'est un peu les jardins de Versailles.
Ouais.
On marche au pas. C'est une langue très scolarisée, on n'a pas le droit, et d'ailleurs les étrangers le savent, c'est une des langues
difficile,
les plus compliquées
ouais.
à apprendre.
Ouais.
Et d'ailleurs, les écrivains français, en général, et moi le premier, écrivent plutôt en phrases courtes, parce que c'est appelé par la syntaxe de la France, et de la langue française. Et Proust a été réellement révolutionnaire. Maintenant, encore une fois, comme il a gagné, on ne le voit plus. Mais il a pris cette langue si sèche et si stricte, et il l'a étirée, il a étiré la langue, il a employé des tas de portions de phrases qui sont parfois inutiles pour le sens, mais qu'il ajoute justement pour faire des phrases comme des vagues et qui nous en sert. Par exemple, il ajoute des conjonctions de coordination partout, et quand on analyse c'est mais, c'est où, mais c'est pourquoi, en général, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, on sent que c'est aussi le tempérament, je crois, un peu tyrannique de Proust, qui était un tyran. Pour moi, c'était un poulpe. C'est un poulpe avec une énorme tête, un énorme cerveau, parce qu'il était très intelligent, puis des pattes partout, et il essaie de nous attirer par ses phrases très longues et très séduisantes. Il faut
le
dire.
Poulpe, ça colle bien avec Proust Océan, le titre de votre ouvrage. Vous dites d'ailleurs que cette œuvre, elle vous élève au-dessus de vous-même. Vous avez vous-même travaillé sur l'idée du chef-d'œuvre il y a quelques années. C'est quoi d'abord un chef-d'œuvre, et est-ce qu'on peut considérer qu'à la recherche en est un ?
Oui, je crois que c'est un chef-d'œuvre ou une grande œuvre. C'est un livre qui ne ressemble à aucun autre et qui surgit un peu. Vous savez, les grands livres, ça surgit comme des champignons. Il n'y a aucune raison. Tout d'un coup, Proust apparaît dans un moment où personne n'écrivait comme lui, où personne ne s'intéressait à ces sujets, c'est un champignon qui apparaît. Et c'est quelque chose qui nous, enfin, qui nous élève, je pense, parce que justement, c'est tellement bien, c'est tellement en dehors des contingences pratiques, c'est tellement, on ne nous parle pas du ministre de l'Intérieur, des manifs, et des, ça nous, c'est des choses de pensée et en même temps très amusantes.
Qui nous sortent de la fatigue informationnelle dont on parlait en début d'émission. Allez, dans un instant, avec Héloïse Gouard, on va parler d'une série sur celui qu'on appelait l'arracheur d'oreilles. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média, Thomas Hill.
Et c'est l'heure de notre deuxième indispensable dans Culture Média avec Héloïse Goua. Ça va Héloïse ?
Et ça va super.
On va parler de série aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'agit d'un biopic. Un biopic autour de celui qu'on surnomme donc l'arracheur d'oreilles.
Oui, l'arracheur d'oreilles ou Iron Mike, le champion du monde poids lourd Mike Tyson, est au cœur d'une série qui nous raconte sous forme de fiction sa vie depuis le tout début. Et c'est un peu le scénario rêvé, hein, le parcours de ce boxeur, vous allez voir. Alors déjà, pour vous donner envie de regarder cette série, j'ai une arme efficace. Mike Tyson préférerait que vous ne la regardiez jamais. Et ça, ça donne toujours envie en général. Et il y a un mois, lors de la sortie de la série diffusée sur Hulu aux États-Unis, Mike Tyson a exprimé sa colère sur Instagram. Il disait, je cite, « Ne vous faites pas avoir par Hulu. Ils m'ont volé mon histoire sans me payer. Hulu est la version streaming du maître d'esclaves. » Fin de citation, rien que ça. Il n'est pas content. Hein. Ouais. Et pourtant, la mini-série en question vaut vraiment le détour. Elle raconte l'histoire dense et complexe d'un homme qui a connu la lumière peut-être un peu trop tôt, un peu trop vite. Ouais. La série commence par nous rappeler dans les très très grandes lignes qui est Mike Tyson et surtout pourquoi on le connaît dans le monde entier.
Je suis le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable champion de tous les temps. Il n'y a personne comme moi, il n'y a personne qui peut égaler mon style. Louange à Allah, je suis imprévisible, ma garde est invulnérable, je suis trop féroce, je bouffe vos gamins, j'arrache des cœurs.
Ah oui, on est sur un petit melon. Hein.
Oui, très féroce, très féroce. Mais c'est pas totalement faux hein, quand on voit ces combats. Ouais. Alors tout de suite avec la série, on remonte le temps pour comprendre comment Michael Gerald Tyson est devenu Iron Mike. Dans les années 70, Mike est un petit garçon dodu et un peu timide qui grandit dans un quartier très pauvre de New York, c'est Brownsville. Et figurez-vous qu'à l'école, le petit Mike est harcelé, il se prend des raclées par ses petits camarades.
Et alors, quand est-ce qu'il va s'apercevoir qu'il peut se défendre, ce petit garçon ?
Alors, c'est avec une histoire d'oiseau. Mike a une dizaine d'années. Il s'occupe de pigeons qu'il nourrit pour passer le temps, jusqu'au jour où l'un de ses petits camarades s'en prend violemment à son oiseau.
S'il te plaît, Gary, rends-moi mon pigeon.
Et sinon, tu feras quoi ? Je t'écoute, demi-portion.
Rends-moi mon pigeon.
D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais peut-être le bouffer, ce piaf.
Voilà, là, la musique doit vous donner une idée de la violence de la première raclée que Mike donne. Autant vous dire que peu d'enfants vont tenter de lui manquer de respect après ça.
Il touche plus à son pigeon là.
C'est ça. Alors il arrête l'école très tôt en CE1. Il préfère s'occuper à voler des gens et cambrioler des maisons. Tout ça va lui valoir d'être arrêté à seulement 10 ans. Première arrestation à 10 ans, c'est quand même pas banal. Ouais. Mais c'est finalement un centre de correction qui lui permet de se révéler. Il est repéré par un gardien passionné de boxe qui le présente à un entraîneur, le grand Cus D'Amato. À ce moment-là, Mike Tyson n'a que 13 ans, mais il a déjà tout d'un grand.
Si tu m'écoutes bien, je ferai de toi le plus jeune champion du monde de l'histoire. Une bête sauvage, une terreur, un monstre. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Alors là, physiquement, il n'a pas du tout l'air d'avoir 13 ans parce qu'il est quand même déjà très 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 costaud. Et l'histoire a prouvé que cet entraîneur avait raison. La suite, on la connaît peut-être un peu mieux. Hein. Il devient une légende de la boxe en enchaînant les victoires. Et le succès va faire vriller Mike Tyson qui va être incarcéré pour viol. Le boxeur dans cette série est incarné par l'excellent Trevent Rhodes. Vous savez, on l'avait découvert dans Moonlight, le film oscarisé. Ouais. Il est très très crédible dans le rôle du boxeur, même si honnêtement, il ne lui ressemble pas tellement physiquement, pour ne pas dire pas du tout.
Pourquoi ? Mais son jeu,
physiquement. Non, il n'a pas du tout le même visage que Mike Tyson, qui a quand même un visage assez, assez original.
Ouais.
Mais son jeu, le jeu de Trevent Rhodes, est épatant. Ouais. Il arrive notamment à reproduire à la perfection le zézément caractéristique de Mike Tyson. Ça ne doit pas être facile de jouer ça sur 8 épisodes. La série mêle très bien le fond et la forme, elle va à toute vitesse. Hein. Il y a 8 épisodes de 30 minutes. Et le fil rouge du récit est représenté par un Mike Tyson d'aujourd'hui, sur scène, devant un public, façon stand-up. Alors, il y a beaucoup de plans face caméra où on le voit réagir réagir au flashback et où il explique aussi ses doutes. Il plaisante même parfois de ses faiblesses mentales. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas aimé la série aussi, Mike Tyson. Il est parfois monté comme un gros nigaud. Mais la série est divertissante, ça se regarde presque d'une traite. Et que vous aimiez ou que vous détestiez Mike Tyson pour son histoire, pour ses frasques, le biopic en série ne tranche pas. Il interroge aussi tout un système qui a plongé violemment ce gamin livré à lui-même dans la cour des grands.
Ça vous a donné envie, Charles Dandigue ?
Ça s'appelle comment, Cro-Magnon ?
Ça s'appelle Mike. Ça pourrait, mais...
Non, ça me rappelle l'argument que vous donnez. Ça rappelle tout à fait un film de Martin Scorsese qui s'appelait Raging Bull avec Robert De Niro. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et c'est exactement le même procédé. Ouais. C'est on voit le boxeur vieux venir commenter ce qu'il a fait dans sa jeunesse. Et ce n'était pas non plus un cueilleur de violettes dans l'histoire.
C'est ça. Alors où est-ce qu'on peut voir ce Mike, ce biopic ?
C'est disponible sur Disney+. C'est 8 épisodes de 30 minutes.
En intégralité donc sur Disney+. Merci beaucoup, Héloïse. Dans un instant, on retrouvera notre invité Charles Dandigue pour les dernières minutes de Culture Média. Et on a un petit message pour vous, Charles, on revient.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Thomas Hill.
Culture Média, ce matin avec notre invité Charles Dandigue, venu nous présenter son dernier essai paru chez Grasset, Proust Océan. Je le montre aux personnes qui regardent Europe 1.fr. Et on a un petit message de l'un de vos amis, un auteur, Adrien Götz, qui nous fait découvrir une autre facette de votre talent, Charles Dandigue.
Comme c'est gentil.
Écoutez.
Bonjour, oui, j'ai l'impression de connaître Charles Dandigue, parce que c'est un vieil ami, parce que c'est mon éditeur chez Grasset, c'est un éditeur impitoyable, ce qui pour moi est indispensable. Je l'ai lu, il est poète, il est romancier, il est écrivain, il est traducteur, et j'avais l'impression vraiment de bien le connaître. Et j'ai découvert, un soir, il y a quelques années, à une fête à la Cinémathèque française, un autre Charles Dandigue, que je connaissais pas du tout. Il était le DJ sur cette fête. Il y avait un carton avec écrit DJ Charles Dandigue. Et là, on a entendu sur la pelouse entre la Bibliothèque nationale de France et la Cinémathèque de Bercy, de la variété italienne, des vieilles chansons françaises, du jazz, des raretés très récentes qui étaient américaines, un festival de musique et de chansons très drôle, très inattendu, toujours lié au cinéma. Et je ne savais pas que Charles Dandigue avait cette érudition musicale. J'aimerais qu'il nous en parle. J'aimerais qu'il nous dise si un jour il en fera un livre. En tout cas, c'est pour moi un Dandigue méconnu.
Mais pour nous aussi. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, Charles Dandigue ? Vous êtes DJ à vos heures perdues ?
Mais c'est parce que je n'ai aucune hiérarchie esthétique en réalité.
Ouais.
C'est-à-dire que je peux aussi bien aimer Proust que Booba ou une chanson de Joséphine Baker.
Vous écoutez Booba ?
Oui, pareil, ça peut m'arriver.
Ça peut vous arriver.
Ou je sais pas, où j'ai une passion pour Laurie Anderson, qui est la femme de Lou Reed, qui est une chanteuse merveilleuse. Mmh. Et j'aime beaucoup Fréhel, voilà, une chanteuse réaliste du temps de Proust. Mais pour moi, chaque expression artistique a sa qualité. Je veux dire, on peut aimer Proust et trouver, je sais pas quoi, Dalida formidable.
Ouais.
Alors, il n'y a aucune contradiction à ça.
Je ne sais pas si vous êtes un super DJ, mais il y a une chose que l'on a pu constater, là encore, tout au long de cette émission, c'est la précision de vos mots et la richesse de votre langue. Vous êtes tellement précis que vous dites, d'ailleurs, que les synonymes, ça n'existe pas pour vous.
Non, je crois.
Il n'y a pas de synonyme dans la langue française.
Je crois qu'il n'y a pas de synonyme. On devrait, d'ailleurs, je ne sais pas quoi, supprimer les dictionnaires des synonymes des librairies, parce que pour moi, ça n'existe pas. Si un mot existe, il a un sens, et l'autre sens qu'on lui attribue parfois est une nuance qui mériterait un autre mot. C'est un peu compliqué ce que je dis.
Non, mais on va donner un exemple. Par exemple, là, une conversation, la conversation qu'on peut avoir tous les deux, c'est très différent d'une discussion.
Exactement.
Ce sont deux choses différentes.
C'est deux choses différentes qui sont aussi différentes d'un débat et qui sont...
Alors, expliquez-nous.
Une conversation... D'abord, la conversation... Au fond, c'est l'art de me laisser parler. Pardon. Non, une conversation, si on est sérieux, c'est quelque chose où on essaie... Je crois qu'on ne peut... Une conversation, c'est entre deux personnes qui sont d'accord. Et quand on est d'accord, je crois qu'on va beaucoup plus loin que quand on n'est pas d'accord. Il suffit d'ailleurs d'écouter les émissions de débat ou de politique où les gens s'invectivent. On commence à 10h, ils s'engueulent, monsieur machin, vous avez dit ça, c'est une ânerie. À 11h, ils ont dit toujours la même chose et on n'a pas progressé. Alors que quand on est d'accord, c'est ça une conversation, on progresse à partir d'une idée commune. Je crois que ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord.
Donc un débat stérile, c'est un pléonasme par exemple.
Voilà, je crois.
C'est toujours stérile les débats.
Je crois que c'est toujours stérile. Oui, parce qu'en plus, débat, et le mot le dit presque, l'étymologie n'est pas ça, mais il y a battre dans débat. Et on veut que les gens se battent, et donc c'est un match de boxe, c'est un débat. On sait très bien que c'est organisé pour ça. Un débat, c'est un match de boxe, c'est pas une conversation.
Et la discussion, alors c'est quoi la nuance avec conversation ?
Et la discussion, c'est une chose pour moi plus souple et moins, qui engage moins les idées, et moins, voilà, on discute. C'est une chose plus spontanée qu'on fait, d'ailleurs, tout à fait bien dans la journée. Mais c'est pas une conversation où on décide de progresser à partir d'une idée.
D'accord.
Voilà, alors, de même que... On pourrait dire que dans une discussion, on manie des opinions et que dans une conversation, on manie des idées.
C'est ça.
Parce que ce n'est pas la même chose non plus, opinion et idées.
Non, alors je vais faire très attention aux mots que j'emploie parce que, par exemple, dire l'époque dans laquelle on vit ou la période dans laquelle on vit, ça peut suffire à vos yeux à m'orienter politiquement. Ça,
bah,
c'est assez amusant. Pour vous, le mot époque, il est réactionnaire.
Mais oui, écoutez, enfin, c'est pas moi qui le décide. Écoutez qui emploie le mot époque. Le mot époque, les réacs adorent ça, parce que les réacs sont toujours mécontents du moment dans lequel ils vivent. Donc ils appellent ça
époque. C'était pas comme ça.
Voilà.
C'est ça
Et l'époque où ils disent c'est symptomatique de l'époque. Ouais, et alors quand ils disent époque, c'est un gros mot, ça veut dire c'est pas bien, il y a du, je sais pas quoi, il y a du woke, il y a des trans, il y a des machins. Ah, l'époque. Et période est un mot beaucoup moins connoté, beaucoup moins chargé. Époque, qu'est-ce que ça veut dire l'époque ? Il y a une charge morale que les gens mettent dans ce mot, je pense.
J'aimerais d'ailleurs que vous nous parliez un peu de la période actuelle pour finir, que vous n'avez pas l'air d'adorer. Vous dites qu'aujourd'hui, l'ignorance n'a plus honte, qu'elle devient même agressive.
Oui, je trouve ça, enfin, c'est une banalité que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'on le voit particulièrement à cause de l'ouverture des niches à Pitbull qui s'appelle Twitter et certains réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens, moins les gens ont de savoir, plus ils ont d'opinion et plus ils sont hargneux. Mais, et d'ailleurs, vous savez, mon livre finit sur un rappel que nous vivons aussi dans le monde de Trump. Et que c'est un monde de violence qui n'a plus le sens de la délicatesse et de la réflexion et qui ne veut pas l'avoir. Parce qu'au fond, toute période est violente et brutale, c'est pas très grave. Mais là, il y a une espèce de vantardise de la violence et de la brutalité qui est tout à fait à l'opposé de ce que nous a appris Proust.
Alors la solution justement face à cela, c'est peut-être de lire Proust et de vous lire Charles Dandy dans vos réflexions autour de son œuvre. Ça s'appelle Proust Océan et c'est chez Grasset, et bien sûr. Merci pour cette conversation. Du coup, je peux me permettre d'utiliser le terme. Charles Dandy, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les amis. Demain dans Culture Média, on sera avec l'humoriste et comédienne Mela Bédia pour la série qu'elle écrit, réalise et dont elle incarne le personnage principal. Ça s'appelle Miskina la pauvre et c'est très drôle. On sera aussi avec la comédienne à la voix si unique, Anna Moulalis, pour sa lecture musicale d'après l'ouvrage de Mona Chollet, Sorcière. Et alors, juste après le flash, eh bien, ce sera l'heure de retrouver les pétillantes Julia Vignali et Mélanie Gomez qui sont déjà dans ce studio avec Bien fait pour vous. Salut
mesdames,
vous allez bien ?
Bonjour Thomas. Bah oui.
Vous parlez de quoi aujourd'hui ?
Alors, on va parler des complexes physiques, rien à voir avec Proust. On revient un peu plus terre à terre. Parfois, on trouve qu'on a des joues trop rondes, un nez trop plat, des lèvres trop fines. Et donc, on complexe. Parfois, ça s'appelle de la dysmorphophobie, c'est-à-dire que tout ça est plutôt dans notre tête. On va essayer de faire la différence avec nos spécialistes ce matin.
Et puis dans le quart d'heure de nos bienfaiteurs, il y aura quelques suggestions lecture pour nos enfants, des livres qui peuvent les aider à identifier, vous savez, la pression qu'on leur met parfois dessus sans faire exprès ou qu'ils ressentent à l'école. Ouais. Et puis il y aura également de la gourmandise au menu. On va mettre la figue à l'honneur. Il y en a encore sur les marchés, il faut en profiter.
On va faire lire Proust à nos enfants. Hein. Je pense que c'est dès plus jeune âge, de 5-6 ans, ça marche très bien. Allez, merci beaucoup et rendez-vous demain à 9h pour Culture Média. Bonne journée.